21h passées de quelques secondes, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, c'est Wagon Livre, votre émission littéraire, 281e numéro, en ce mercredi 25 janvier 2017, et nous retrouvons notre camarade Marie-Thérèse Mutin. Bonsoir Marie-Thérèse Mutin.
Bonsoir camarade Yannick.
Deuxième partie de notre échange autour de votre autobiographie politique « Une lente agonie » parue depuis septembre 2016 aux éditions Mutine. Je rappelle que l'ouvrage se trouve en librairie. On le trouve dans un grand nombre de librairies en Bourgogne. Celle qui
c'est-à-dire
on accepte le dépôt.
N'importe quelle librairie peut le commander, de toute façon. Voilà, on peut aller le chercher dans n'importe quelle librairie qui fera l'effort de trouver les éditions Mutine.
Et de manière autonome, voilà. Via Internet, oui, blog des éditions Mutine ou voilà. Éditions Mutine, et on arrive sur le site de votre maison d'édition, que vous avez créé il y a un peu plus de 20 ans maintenant, et on peut bien sûr l'acheter, se le procurer, ainsi que tout. Les autres livres disponibles au catalogue des éditions Mutine. Marie-Thérèse, je rappelle donc que vous êtes née en 1939, vous vivez en Côte d'Or, dans le petit village de Cessé-sur-Tille, qui est le village où vous êtes née et dont vous avez été maire durant 21 ans, précisément. Vous vous êtes engagée au Parti Socialiste en 1971. De 77 à 1990, vous êtes devenue la première secrétaire de la Fédération du PS de Côte d'Or, et de 79 à 98, vous avez participé à la direction nationale du Parti Socialiste. Je rappelle aussi, et je le dis, c'est important que vous avez été exclu du Parti Socialiste, jeté comme un Kleenex malpropre. On aura sans doute peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, cette autobiographie politique intitulée Une lente agonie, c'est votre parcours, c'est le parcours d'une militante sincère, totalement désintéressée, qui n'a pas cherché à avoir un poste en tant que ministre, à devenir sénateur, à profiter.
Non, je me suis quand même retrouvée députée européenne, mais quasiment par hasard, quoi.
Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, écrivait Paul Éluard. En tout cas, le moment est peut-être venu de parler de cette victoire de la gauche socialiste. François Mitterrand et les socialistes accèdent au pouvoir suite aux 52,22% des voix qui seront données à François Mitterrand au deuxième tour, le 10 mai 1981. Marie-Thérèse, où étiez-vous le 10 mai 1981 et comment avez-vous vécu à la fois cette campagne et cette très belle victoire de la gauche socialiste ?
Alors, le 10 mai, j'étais bien sûr en mon poste de présidente du bureau de vote à Cessé-sur-Tille pendant toute la journée, avec beaucoup d'angoisse, d'attente. Et puis, dès les formalités terminées à CC, je me retrouve au siège du Parti Socialiste à Dijon, et où là, on attend, on n'a pas la télévision, donc on entend à la radio que François Mitterrand est élu. Alors là, c'est le débordement de joie de tout le monde, quoi, les anciens qui pleurent, les jeunes qui rient, enfin tout le monde. Et alors un monde impressionnant qui se précipite dans notre siège en disant on a gagné, ce qui exaspère un petit peu les petits jeunes gens qui nous avaient rejoints et qui avaient beaucoup travaillé pour cette campagne en disant mais enfin où ils étaient eux pendant qu'on faisait campagne, quoi.
Alors c'est amusant parce qu'en plus certains, un petit peu comme les révolutionnaires de 1792, veulent vous hisser sur une table dans la rue et vous invitent à faire...
Ils veulent absolument que je parle. J'avais préparé mes deux interventions. Une intervention au cas de défaite, parce que je me suis dit alors qu'est-ce que je vais dire, et puis une intervention de victoire. Donc je ne me suis pas trompée, j'ai bien pris, mais... Il y avait un tel bruit dans cette rue d'Assas, vous voyez, à Dijon, c'est une toute petite rue en face de la préfecture, qui était bondée de monde. Et là, ils ont mis la table dehors, ils m'ont hissé sur la table. Parle! Le mieux encore, c'est qu'ils m'ont après, ensuite, entraîné sur la place du Barezet à Dijon. Et ils étaient montés sur le rebord, et ils m'avaient mis sur leurs épaules, ils étaient montés sur le rebord du bassin. Et puis ils me disaient, allez, dis-leur que c'est nous qui avons gagné. Mais bon, la rue de la Liberté était pleine de monde, et ils n'en avaient rien à faire.
La ville de Dijon, qui a été longtemps, j'allais dire, présidée par des maires de droite, je pense bien sûr à une figure historique qui est Robert Poujade.
Bien sûr,
En 81, la ville de Dijon avait aussi voté l'alternance.
Oui, Mitterrand était majoritaire à la ville de Dijon, oui.
Et vous, Marie-Thérèse, vous avez vu les images de François Mitterrand quittant Château-Chinon, puisque c'est là, il est en Morvan, à l'hôtel
Oui, du vieux Morvan.
l'hôtel du
C'était
Vieux
du vieux
Morvan,
Morvan,
à Château-Chinon.
oui.
C'est de là qu'il va quitter
Oui.
la
Mais
province
non,
pour aller à
nous,
Paris.
on n'a rien vu de tout ça, puisqu'on était dans les rues de Dijon, et voilà, et on n'a rien vu de tout ça. On l'a vu le lendemain, quoi. Le lendemain, oui.
Donc pour vous, c'est un bonheur
Ah
immense.
oui, c'était un bonheur immense, oui, ça, vraiment,
Vous avez
c'était
pensé fort à
extraordinaire.
Mitterrand à ce moment-là?
Ben,
Vous
c'est-à-dire,
avez
on a
pensé à
pensé,
qui?
oui,
À vos
on a
parents,
pensé.
aux humbles, au monde
Ben, j'ai
ouvrier?
pensé beaucoup à mes anciens, hein, qui attendaient depuis 36, aux jeunes qui étaient tellement contents de ne pas avoir travaillé pour rien, comme avait dit un des jeunes là. Et bon, c'est vrai que c'était une. On pensait même plus, quoi. On était submergés par la joie.
Avant de parler de François Mitterrand et des différents gouvernements socialistes qui se sont succédés dès 1981, j'aimerais que vous nous parliez de rencontres avec François Mitterrand, parce que vous l'avez rencontré plusieurs fois avant qu'il ne devienne président de la
Bien
République.
sûr.
La première fois où vous le rencontrez, vous l'accueillez à l'aéroport de Longwy, c'est bien
Oui,
cela?
voilà,
C'est en quelle année?
c'était en 1974.
Donc vous êtes...
Moi, je suis secrétaire aux luttes sociales et aux entreprises, secrétaire fédéral. Et le premier secrétaire, c'était pour le meeting. Il a toujours fait des meetings à Dijon, hein, pour les deux présidentielles. C'était pour le meeting de 74, avant l'élection de 74. Et le premier secrétaire, Pierre Palot, est en train de parler au Palais de la Foi, hein, avant que Mitterrand arrive. Et donc, c'est moi qui suis chargée d'accueillir Mitterrand à Longwy. Il descend de l'avion, je me présente, il me serre la main, mais on a l'impression qu'il devait dormir, je pense. Il avait dû s'assoupir dans l'avion. Et je me dis, bon, il va pas, je vais pas l'avoir marqué, quoi, je veux dire. Et 3 ans plus tard, je me retrouve dans les couloirs d'une convention du Parti socialiste à Paris avec Pierre Palot. Et c'était à un moment où je devais remplacer Pierre Palot, d'ailleurs, hein, comme première secrétaire. Et donc Pierre me présente à François Mitterrand en disant, c'est Marie-Thérèse Lutin. Et bien sûr, je la connais. Je la connais, c'est elle qui m'a accueilli en 74 à Longwy. Ça vous laisse sur le derrière, hein, une mémoire pareille. C'est vraiment extraordinaire. Il a
J'ai envie de
vraiment
faire
une
un jeu de
mémoire.
mots, c'est une mémoire d'éléphant du
Oh. Ah
PS.
oui. Alors là, c'est vraiment l'éléphant roi, là. C'est vraiment. Et puis là, cette mémoire-là, je l'ai vu en faire preuve avec beaucoup de personnes. Hein. Il sait où il les a vus, où il les a rencontrés. C'est extraordinaire. Pour un homme politique, c'est très important.
Vous avez eu aussi l'occasion de déjeuner avec lui et d'autres figures du PS dans son appartement privé,
Oui,
rue de
rue de
Bièvre. Vous
Bièvre,
avez croisé Daniel Mitterrand.
oui. Mais Danielle Mitterrand était une femme extrêmement, extrêmement sympathique, gentille, attentive, vraiment quelqu'un d'exceptionnel aussi.
Alors, puisqu'on est proche de Daniel, on est proche aussi de Roger Hanin, le beau-frère de François
Oui,
Mitterrand.
oui,
Alors, lui aussi, Roger Hanin, vous en gardez un souvenir ému.
oui. Oui, ma mère en garde surtout un souvenir ému. Oui, Roger Hanin, en 81, alors, venait. Préparer la sono pour son beau-frère, puisque Mitterrand était son beau-frère, pour les meetings. Et donc, Il est venu quelques jours avant à Dijon hein, pour installer la Sono. Et puis le jour du meeting, je devais prendre la parole. Il y avait 10 000 personnes hein, là et j'étais complètement tétanisée, quoi. Et donc Roger Hanin, qui est alors quelqu'un de monumental, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est quelqu'un de très carré, immense, puis moi je fais 1m50, hein, donc il m'avait pris en me disant écoute, ne t'inquiète pas, c'est toi qui vas avoir le micro, ils ne te peuvent rien, tu montes à la tribune, tu attends que les gens se taisent, surtout tu attends, tu respires bien et après tu parles. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai toujours fait après les conseils. Et c'est vrai qu'autrement je serais arrivé et puis j'aurais déballé à toute allure ce que j'avais à dire pour partir aussi vite.
Et Roger Hanin va voir votre maman.
Et alors oui, Roger Hanin donc parle à ma mère qu'il est là en lui disant qu'elle a une fille exceptionnelle, quoi. Donc ma mère était toute émoustillée et elle ne rate pas un épisode de Navarro après, quoi.
Permettez-moi une petite remarque, Marie-Thérèse Mutin. Dans votre autobiographie intitulée « Une lente agonie », très souvent, vous vous présentez dans des situations, des réunions, que ce soit des petits comités. Bon, il y a des moments de tension, il y a des luttes intestines, des querelles internes. On peut comprendre les tensions entre hommes, entre militants, entre camarades. Mais très souvent, j'ai eu l'impression que vous étiez une femme qui avait souvent peur de beaucoup de choses. Que la peur était quelque chose qui avait marqué aussi ce parcours de militante. C'est à la fois extraordinaire ce contraste entre l'énergie, la fougue, la force de conviction dont vous êtes capable et à la fois cette petite femme qui a peur souvent ou qui ne le montre pas mais qui en tout cas en parle dans cette autobiographie écrite récemment en partie en 2016.
Bien sûr, vous savez quand vous entrez dans une salle où il y a 80 personnes qui veulent votre démission et qui vous ménagent pas, ça fait peur. Puis on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Je ferais mieux chez moi en train de lire un bon bouquin. Hein. Mais justement, le fait qu'on veuille comme ça votre démission, on ne sait pas trop pourquoi, et les militants qui sont là ne savent même pas pourquoi non plus. Au bout d'un moment, vous vous dites, mais enfin, ces gens-là, c'est pas eux qui m'ont mis là, c'est pas eux qui m'ont élu, et ceux qui m'ont élu, est-ce qu'ils vont accepter que je m'en aille? Donc, vous résistez à ce moment-là. Ça donne une grande force de parler au nom des autres. Moi, en mon nom, je suis incapable de défendre quoi que ce soit, pour moi, je veux dire. Mais quand vous parlez pour votre fédération, pour les gens qui vous ont fait confiance ou qui vous ont investi d'une certaine mission, bien là, vous n'avez plus peur, quoi. Vous parlez parce que c'est pour les autres.
En tout cas, vous parlez bien pour nous de cette aventure personnelle au sein du PS et de cette aventure épique. Du Parti Socialiste qui voit donc François Mitterrand élu 21e président de la République le 10 mai 1981. On marque une pause musicale et ensuite on parle de la réception dans les journaux de l'Élysée le 1er 14 juillet 1980 parce que vous y étiez, oui, Marie-Thérèse Mutin, et vous avez vu des choses qui vont nous intéresser. C'est Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble avec Marie-Thérèse Mutin. Jusqu'à 22h pour Une lente agonie, son autobiographie politique disponible aux éditions Mutines.
Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. At the bottom of your glass, Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark. Same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep. But never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
C'est une ancienne militante du Parti Socialiste que j'ai le plaisir et l'honneur aussi de recevoir devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Marie-Thérèse Mutin est avec nous. Elle a été la première femme en France à être à la tête d'une fédération départementale du Parti Socialiste. En ce qui la concerne, c'était la Fédération PS de Côte d'Or de 1977 à 1990. Vous avez succédé alors à Pierre Palot, hein, pour rappel. Alors, nous évoquions l'élection de François Mitterrand le 10 mai 1981. Et bien sûr, il y a cette traditionnelle, alors je ne sais pas si ça s'appelait Garden Party de l'Élysée.
Oui, oui, je pense. Oui.
14 juillet 1981, et bien ainsi que d'autres secrétaires PS, vous êtes conviés à cette Garden Party de l'Élysée.
François Mitterrand a toujours eu un grand respect pour les militants et pour le parti lui-même. Et quand il a été président, il a invité tous les premiers secrétaires à venir à la Garden Party. Et donc, on y est allé, bien sûr. C'était un moment assez fabuleux, quoi.
L'apothéose.
Oui, bien sûr, c'était l'apothéose. Et alors là, il y avait quand même le contraste entre les gens qui étaient traditionnellement, les gens de droite qui étaient traditionnellement là et qui étaient avec guindés un peu, vous voyez, et nous arrivant, là, les socialistes, comme des hordes de barbares pour eux, hein, arrivant là en jean, en se tutoyant tous. Alors, voilà, c'était un contraste assez extraordinaire. Et donc là, ben oui, là, je me suis souvenu quand j'ai vu le grand parc de l'Élysée où était monté le buffet. Je me suis souvenu d'Alain Bombard qu'on avait reçu pendant la période des législatives qui ont suivi les présidentielles, qu'on avait reçu en Côte d'Or et à qui on avait fait faire un périple par une journée très chaude et tout. Et il était ministre à l'époque, ministre de l'Environnement, mais à longueur de temps, il y avait son secrétaire qui le suivait en lui disant « Matignon demande si tu as bien dit ça, là. Ah ben oui, mais il faut que tu demandes. » Parce que, évidemment, Bombard, qui avait été pris pour sa façon de parler, une fois ministre, il n'avait pas vu le changement, quoi. Et donc, on a eu un meeting à Vénarel-et-Laume, là où, alors vraiment, c'était du De Vos, quoi. Il a présenté les choses avec une faconde et une énergie assez extraordinaire. Et donc, il a raconté à un moment donné, justement, l'intronisation de Mitterrand, la journée du 22 mai 1991, où il nous dit qu'il gambadait sur ce fameux parc que j'avais sous les yeux à ce 14 juillet, il gambadait la main dans la main avec Mélina Mercouri dans l'herbe. Et donc ce souvenir-là m'est resté parce que quand même Bombard gambadant, parce que c'était quand même un homme assez corpulent, hein, et Mélina Mercouri qui devait avoir une tête de plus que lui, ça m'avait laissé un petit souvenir dans la tête.
Alors François Mitterrand a choisi Pierre Mauroy comme Premier ministre, et dans votre autobiographie « Une lente agonie », page 123, à propos de Mauroy, Premier ministre, vous écrivez « Lorsque, trois ans plus tard, puisque vous parlez d'un congrès donc en 78, lorsque trois ans plus tard, je vis Pierre Mauroy, Premier ministre, descendre les Champs-Élysées dans la voiture présidentielle, ma grande joie de la victoire tomba d'un coup. Aux quelques camarades qui se trouvaient près de moi, qui se réjouissaient sans réticence, je ne pus m'empêcher de dire « On a perdu. » Pourquoi ?
Mais parce que j'avais eu l'occasion de voir Mauroy à un fameux congrès, qui est le congrès de Metz en 1979, qui est le congrès qui a permis à Mitterrand d'être candidat contre Rocard, qui était à l'époque, hein, c'était la grande lutte Mitterrand-Rocard en 1979. Et Pierre Mauroy s'était allié à Rocard pour contrer Mitterrand. Et pendant la commission des résolutions, c'est-à-dire la commission qui se réunit la nuit pour discuter, pour voir les points d'accord, j'ai vu ce Mauroy, qui pour moi était un dirigeant un peu mythique du Parti socialiste, se faire rouler dans la farine par les rocardiens, quoi. Ils l'ont manipulé d'une façon assez lamentable, à mon avis, hein. Et donc j'ai vu cet homme qui était un monument pour moi être comme ça manipulé par une bande de zozos là, jeunes rocardiens, et du coup je me suis dit ben oui, c'est le colosse au pied d'argile, quoi. Et donc quand je le vois être Premier ministre, je me dis c'est pas lui qu'il aurait fallu, quoi. C'est quelqu'un qui sache taper du poing sur la table et puis pas faire de concessions, quoi. Je pense qu'en 81 on n'aurait pas dû faire de concessions aucune. On aurait dû tout de suite prendre des mesures draconiennes pour la droite, parce que la droite était tétanisée à ce moment-là. Mais 6 mois plus tard, elle avait compris qu'elle risquait rien, quoi.
Mais les milieux financiers et bancaires ont eu une grande peur au départ.
Bien sûr, oui, tout le monde avait peur. Tout le monde s'était dit, voilà.
Certains pensaient que l'armée rouge allait défiler sur les Champs-Élysées.
Oui, les chars russes allaient arriver. Bon. Mais bien sûr, je ne tenais pas à ce que les chars russes viennent sur... Mais il y avait des mesures à prendre sans compromission, quoi. Enfin, il y avait des chasses aux sorcières à faire. Quand même.
Mais le PS a gouverné avec les communistes.
Oui, il a gouverné.
Est-ce que ça a gâché les choses ?
Non, pas du tout. Non. Ce qui a gâché, c'est quand les communistes ont quitté le gouvernement en 84.
En 84.
Oui, oui, là, oui, ça a permis toutes les dérives.
Ouais. Alors en 83, c'est le tournant de la rigueur. La gauche est obligée de se rendre compte que tout n'est pas possible, que changer la vie, c'est pas facile. Et même avec la force tranquille, tout n'est pas possible. Alors c'était le slogan aussi, une expression d'ailleurs qui était apparue pour la première fois dans Les Misérables de Victor Hugo, et qui avait été reprise par Léon Blum et enfin par Jaurès et Léon Blum.
Mais non, mais 83, oui, bien sûr, c'est la rigueur. C'est bon, est-ce qu'on pouvait faire autrement? Moi, je pense que oui, mais bon, apparemment, les économistes ont eu raison de Mitterrand. Mitterrand n'était pas un économiste. Il s'est donc laissé influencer par Delors, Rocard, disant qu'on ne pouvait pas faire autrement. Quoi.
Alors néanmoins, il y a des grandes avancées sociales.
Ah, ben, bien sûr. Oui. En 82, il y a eu beaucoup de choses de fait. Hein. D'abord, il y a eu l'abolition de la peine de mort, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Alors que la grande majorité des Français y étaient opposés.
Ah, ils étaient opposés, mais Mitterrand avait eu le courage de le dire pendant la campagne, hein, même en sachant que ça pouvait lui coûter l'élection. Ça, c'est aussi une grande force de la part de Mitterrand. Et donc il y a eu ça, il y a eu l'augmentation du SMIC, il y a eu la semaine de 39 heures,
la retraite à 60 ans,
la cinquième semaine de congés payés. Enfin bon, il y a eu énormément d'avancées. Il y a eu les lois Auroux qui n'étaient pas tellement en avance, mais qui étaient quand même une avancée de la démocratie dans l'entreprise.
Alors puisque vous parlez de Jean Auroux, qui a donc été un ministre de François Mitterrand dans les années 80-82, ministre du Travail, il vient à Dijon, vous l'accueillez, et alors voilà un ministre qui arrive de manière très désinvolte, de manière très simple, très modeste.
Hein. Il arrive comme un militant. D'ailleurs, il venait faire une réunion sur ses lois, hein, avec la fédération, avec le secrétaire aux entreprises du PS, c'est Jean-Paul Bachy qui est maintenant président de la région, enfin qui était président de la région des Ardennes, là, Franche-Comté, Champagne. donc il arrive pour faire une réunion et donc nous on va l'accueillir à la gare avec la petite Fiat rouge de mon permanent là qui arrive devant la gare et on voit une place et puis il y a la police qui est là puis qui nous dit « Ah, vous n'arrivez pas là, on attend un ministre ». Je dis « Nous aussi on attend un ministre ». Quoi? La police, ils ont dû me reconnaître, malgré tout ils me connaissaient quand même. Ils m'ont dit « Ah bon, vous venez attendre Monsieur Auroux ?» Ben je dis « Oui. Mais dans cette voiture-là » Ben je dis « Oui. » Et donc, Jean Auroux vient comme un militant, là. Il vient pour défendre sa loi. Il est encore comme un militant à l'époque. Hein. Et donc, alors, la première chose qu'il me demande, c'est d'aller manger à l'Hôtel de la Cloche.
Place d'Arcy.
L'Hôtel de la Cloche, qui est alors le repère des bourgeois et des gens riches de Côte d'Or. Et je lui dis, alors là, hors de question qu'un ministre socialiste aille manger à la Cloche. Et donc, ça s'expliquait parce qu'il avait eu, 2 ans avant, il était professeur, il avait eu dans son lycée technique le cuisinier qui faisait la cuisine à la Cloche et qui lui avait dit, si vous passez par là, venez voir. Mais il n'y est pas allé. Il a mangé une salade composée au CRI, au Centre de Rencontre Internationale où on faisait la réunion.
Alors mettons le doigt là où ça fait mal. Page 186, dans votre autobiographie politique, vous écrivez « Je n'ai jamais exercé mon action politique en fonction d'un plan de carrière, comme c'est malheureusement le cas de nombreux militants d'après 1981. »
Oui.
Commentaire, explication, justification, colère.
Mais non, c'est même pas de la colère, c'est une constatation. C'est que jusqu'en 81, bien sûr, il y avait des candidats, hein, pour les élections, il y avait des bagarres pour être candidat. Mais on ne faisait pas, on n'adhérait pas au Parti Socialiste pour être candidat. On adhérait parce qu'on voulait l'union de la gauche, parce qu'on voulait le programme commun, parce qu'on voulait changer la vie des gens. À partir de 1981, les militants sont différents, pas tous, hein, mais les militants qui veulent quelque chose, ils ont un plan de carrière dans la tête, ils arrivent au parti en ayant une idée bien précise de où ils vont se placer, parce que là, dans cet endroit-là, c'est bientôt les municipales, donc on peut peut-être devenir tête de liste. Vous voyez, donc c'est très différent. C'est très différent. Ils y ont un intérêt personnel.
Et vous, Marie-Thérèse, il n'était pas concevable qu'on puisse vous proposer un poste, pas de ministre, mais même de directeur de cabinet de ministre ?
Ça ne m'est jamais, ça ne m'a jamais effleuré. Personne ne me l'a jamais demandé, d'ailleurs. Mais bon, mais je crois que je n'aurais pas accepté. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est être première secrétaire de la fédération. Ça, c'est le poste que j'ai préféré entre tous ceux que j'ai eus. Conseiller régional, maire, députée européenne, c'est rien à côté de ce que j'ai pu vivre en tant que première secrétaire.
Ceci dit, après 81, vous apprenez que la préfecture de Côte d'Or mène une enquête administrative sur vous parce qu'il est question que le président de la République vous décerne la Légion d'honneur ou une haute distinction.
Ah oui, la Légion d'honneur. Et moi, j'y crois pas. Hein. Je dis, c'est une blague. C'est une blague qu'on me fait, quoi. Tellement ça me semblait saugrenu. Et donc, la fonctionnaire de la préfecture me dit « Si, il faut que je fasse un dossier. » Je lui dis « Non, mais c'est pas possible. » Alors elle commence à me demander « Qu'est-ce que vous avez fait pendant la résistance ?» Vous voyez, moi, j'avais 3 ans. J'ai pleuré une fois sur la table de cuisine parce qu'il y a eu une... Les Allemands sont rentrés, mais je lui dis « C'est tout. » Puis dans votre métier, ben, j'ai fait mon métier du mieux que j'ai pu, mais c'est tout. Quoi. Donc je lui dis « Vous voyez bien. » Alors j'ai demandé à qui lui avait demandé ça. Donc c'était le cabinet de François Mitterrand. Donc je connaissais le chef de cabinet, donc je l'ai appelé en lui disant « Non, 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 je ne veux pas de ça. J'ai pris ça comme une insulte. Je ne voulais pas, moi, je n'avais pas idée d'un remerciement pour des faits d'armes, vous voyez. J'ai pris ça très
donc
mal.
Vous n'avez eu aucune
distinction ? Ah non, 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 j'ai eu aucune distinction, j'en ai jamais voulu, et j'en veux toujours pas.
Hein. Vous en êtes plutôt satisfaite ?
Ah oui, parce que c'est ce que je dis, hein, quand je vois des fois ceux qui l'ont, je me dis qu'il y a plus d'honneur à ne pas l'avoir.
C'est Marie-Thérèse Mutin qui nous accompagne ce soir dans Wagon Livre. On marque une nouvelle pause musicale, nous sommes ensemble jusqu'à 22h et on se retrouve juste après cette petite virgule. Thank you.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Elle signe une lente agonie, c'est son autobiographie politique, c'est Marie-Thérèse Mutin qui est avec nous. Je le répète, elle était responsable de la Fédération PS de Côte d'Or de 1977 à 1990 et elle a participé à la direction nationale de ce même parti socialiste de 1979 à 1998. Alors, Marie-Thérèse Mutin, cette autobiographie politique, je ne dirais pas que c'est un testament, encore que c'est un témoignage extrêmement riche. Sur les combines, sur la sincérité, sur les tricheries, les malhonnêtetés de certaines personnes. Hein, quelques-uns sont égratignés.
Oui, oui. Oui
c'est
oui,
un hommage que vous rendez à un militantisme désintéressé à un moment, en 2017, pardon, où en France, la notion de parti politique tend à disparaître.
Voilà, c'est un peu pour cela que j'ai écrit ce livre. Pour montrer ce qu'est un véritable parti politique. Et c'est vrai que les gens, ils ont une espèce de détestation des partis politiques parce qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des machines à faire un président de la République et rien d'autre. Et pourtant, j'estime que la démocratie ne peut pas se passer des partis politiques, mais des partis politiques qui soient ce qu'on avait fait entre 71 et 81, c'est-à-dire avec des militants formés, des militants qui savent de quoi ils parlent, qui discutent du programme socialiste, qui désignent leur candidat qui sera le mieux à même de porter ce programme, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, avec les primaires, c'est la mort des partis. Pourquoi aller adhérer à un parti si pour 1 euro, vous pouvez désigner le candidat qui, lui, va faire le programme qu'il veut, et non pas le programme de son parti, hein, le programme qu'il veut pour les élections. À quoi sert le militant? Le militant socialiste, pour l'instant, il sert à tenir l'urne au moment des primaires. C'est à peu près tout. C'est quand même un peu léger. Et je suis persuadée, pour ma part, que si on donne aux jeunes, maintenant, ils se désintéressent de la politique, c'est pas vrai. Ils se désintéressent de la politique telle qu'elle est faite à l'heure actuelle. Mais si on leur donne un projet porteur, si on leur donne une vision d'avenir, ils vont se passionner comme nous. On n'était pas des gens extraordinaires à cette époque-là. On était des gens comme tout le monde, quoi. On s'est passionné parce que c'était passionnant. Mais là, pourquoi aller militer dans un parti? On ne voit pas très bien. Si j'avais 30 ans à l'époque, là, maintenant, je ne militerais sûrement pas.
J'aimerais que vous parliez de Pierre Joxe.
Ah.
Alors Pierre Joxe a été ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, il a été aussi le président du Conseil régional de Bourgogne en 1979, et alors vous soulignez, moi je n'ai retenu qu'une chose, alors bien sûr vous dites que c'est un grand serviteur de l'État, c'est un fils d'un grand ministre de Gaulle, hein. C'était d'ailleurs le père de Pierre Joxe, s'appelait Louis Joxe, il était ministre des Affaires algériennes du général de Gaulle. Mais alors, de Pierre Joxe, je n'ai retenu qu'un défaut, c'est sa misogynie qui faisait trembler tout le personnel féminin au Conseil régional.
Oui, il n'avait quand même pas que cela, mais c'est vrai que j'ai jamais vu quelqu'un aussi misogyne que Pierre Joxe. Ça, c'est sûr, oui. Mais bon, c'est vrai que quand il a été président de la région, c'est-à-dire que c'est lui qui est venu régler les affaires du Parti Socialiste au moment des crises, et c'était vraiment quelque chose de... C'était l'éléphant socialiste dans le magasin de porcelaine, hein, là, vraiment.
Nous n'aurons pas le temps de parler de tout, c'est
non,
évident.
Non, bien sûr.
Et je vous recommande l'autobiographie politique de notre invité, Une lente agonie, moteur de recherche, édition Mutine. Vous pouvez le commander, c'est vraiment très facile, en quelques clics. Catherine Ribeiro, c'est une chanteuse qui a longtemps épaulé la cause socialiste. Vous en avez fait la connaissance lors d'un congrès,
d'un meeting ici.
C'était un choc terrible.
Oui, pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment une belle rencontre.
En 86, Bon, c'est l'année d'ailleurs en mars 86 où va pour la première fois en France se mettre en place une cohabitation. Hein. François Mitterrand va être contraint.
C'est la première fois qu'il y a des élections à la proportionnelle.
À la proportionnelle, hein. D'ailleurs 35 députés Front National qui font leur entrée dans l'hémicycle. Et puis Chirac devient le Premier ministre. Bon, ça, on s'en rappelle un petit peu. Moi, j'étais quand même très jeune. Et en 86, Marie-Thérèse, vous étiez aussi jeune, vous êtes élue au conseil régional.
Voilà, je suis élue au conseil régional, oui.
Et alors, est-ce que vous auriez pu devenir, par exemple, vice-présidente du conseil régional à la demande de Jean-Pierre Soisson?
Ah non, pas en 86.
Alors, pas en 86,
pas
pardonnez-moi.
En 86.
Je fais des raccourcis terribles.
Mais non, plus tard. En 98, c'est là où je fais une liste dissidente parce que la direction de la fédération ne respecte pas nos statuts. Et donc élimine le courant que je représente avec tous mes camarades en nous donnant qu'une place de battue au régional. Donc ça m'énerve. En plus, le parti n'étant plus tellement ce que j'avais rêvé, j'ai fait une liste dissidente en sachant pertinemment que je serais exclue. Et donc je suis élue. À la surprise de la gauche plurielle qui s'y attendait pas, mais je suis élue et c'est l'année où Jean-Pierre Soisson a besoin des voix. On fait 24-24 avec la droite. Hein. La gauche et la droite font 20, la gauche et la droite, oui, font 24-24. Et ceux qui vont faire le président, dans ce cas de figure, c'est le Front National. Et donc, le lendemain de l'élection, je reçois un coup de fil de Jean-Pierre Soisson qui me félicite et qui me demande pour qui je vais voter pour la présidence. Parce que si je votais pour lui, il n'avait pas besoin des voix du Front National puisqu'on était à 25-23. Alors, ça m'avait un peu estomaqué. Hein, parce que... Mais bon, Jean-Pierre Soisson est un homme très intelligent et très courtois hein, en même temps. Je dis, mais enfin, mais bien sûr, pour le candidat de gauche, enfin, comment vous pouvez en douter? Oh, bah, ça ne vaut rien, ça ne fait rien d'essayer, hein, on peut toujours essayer, donc voilà. Et je me dis qu'à ce moment-là, si j'avais pas été cette intransigeante de gauche, j'aurais pu dire, bah, pourquoi pas vous, qu'est-ce que vous me proposez?
C'est votre côté stalinien.
Oui, voilà, oui, si on veut, c'est mon côté. Plein de convictions, hein, aussi.
Alors, un petit mot de Jean Poprenne, parce que vous avez écrit une biographie de Jean Poprenne, et puis il est un peu le grand absent de notre échange. Alors, un mot de présentation de Jean Poprenne assez rapide, s'il vous plaît, Marie-Thérèse.
Oui, Jean Poprenne, c'est vraiment un intellectuel en politique. C'est le théoricien presque du Parti Socialiste. En 71, le Parti Socialiste se forme sur l'Union de la Gauche et une définition du front de classe. Le front de classe, c'est la définition sociologique qu'a trouvé Jean Poprenne pour remplacer le parti de la classe ouvrière, enfin la sociologie de la classe ouvrière qui était représentée par le Parti communiste. Donc Jean Poprenne a toujours été un théoricien du socialisme et donc j'ai eu la chance. Bon, moi, j'ai toujours suivi ce qu'il disait parce qu'il y avait un petit journal qui s'appelait Synthesflash qui paraissait tous les 15 jours, qui était une mine de renseignements sur la politique, la vie politique partout, dans le moindre canton ou bien dans tout le monde, quoi. Et donc, quand à un moment donné, il m'a fallu choisir entre les sous-courants des courants, parce que J'ai choisi, bien sûr, Jean Poprenne, dont j'avais suivi toutes les... Et c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, quoi. Travailler avec lui, ça a été un enrichissement intellectuel extraordinaire.
Et vous avez, d'ailleurs, rédigé une biographie.
Une biographie, oui, une biographie. C'est une biographie à quatre mains, si j'ose dire, parce que Jean Poprenne est mort d'un accident en 97 et il avait commencé ses mémoires. Il avait 150 pages de mémoire qui s'arrêtaient en 53 à la mort de Staline. Et donc, sa veuve voulait absolument que ça paraisse, mais personne ne voulait les quelques années de jeunesse de Jean Poprenne. Ça n'avait pas grand sens. Et donc, j'ai proposé à Nathalie Poprenne de reprendre ce que Jean Poprenne avait fait et de le compléter. Donc moi, j'ai fait sa biographie de 53 à sa mort. Voilà. Et j'ai gardé sa jeunesse et tout ce que d'ailleurs je n'aurais pas connu.
Le 8 mai 1988, François Mitterrand est réélu avec 54% des voix. C'est Michel Rocard qui devient alors Premier ministre. Mitterrand donc termine sa présidence en 1995. C'est Jacques Chirac qui lui succède. Et François Mitterrand nous a quittés dans sa 80e année, le 8 janvier 1996, il y a maintenant 21 ans. On marque... petite pause musicale, et puis on vous retrouve juste après pour l'extrême fin de l'émission, parce qu'il faudra bien conclure. Hein. Maurice Thorez disait il faut savoir finir une grève.
Ben oui.
Ben, il faut savoir terminer une émission, Marie-Thérèse Mutin. À tout de suite.
Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on ne sera plus ensemble. Fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis. Le temps passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse, prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc, des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe, on s'afflige des supplices. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes. Au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. Alors j'écoute du Miles Davis. Le temps passe, on s'afflige des supplices, puis on se lasse.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Le moment est venu de conclure avec notre invitée Marie-Thérèse Mutin, auteure d'une autobiographie politique disponible aux éditions Mutine et qui a pour titre une lente agonie. Marie-Thérèse Mutin, le quinquennat de François Hollande, je vous laisse nous en parler, critique, louange, condamnation.
Oui, François Hollande, je l'ai bien connu puisqu'il était premier secrétaire avant de devenir président. Et j'ai toujours jugé, effectivement, j'ai pas été surprise de la façon dont il a mené la présidence, parce que je le connaissais bien, et je savais que c'était un homme de compromis sans arrêt, un homme qui ne tranchait de rien, qui a horreur des conflits. Et donc, il est toujours très jovial, très aimable, très attentionné, mais très inefficace. Hein, c'est comme ça que je me suis retrouvée à l'extérieur du parti, parce qu'il n'a pas voulu trancher entre notamment François Rebsamen et moi.
En 2012, est-ce que vous avez voté pour François Hollande ?
Ah oui, bien sûr, j'ai voté pour François Hollande, oui, quand même.
Non, mais vous auriez pu voter Mélenchon.
Ah, ben oui, au premier tour, j'ai voté Mélenchon, mais je vous parle du deuxième tour, là. Oui, oui, au premier tour, j'ai voté Mélenchon, oui, bien sûr. François Hollande, ben, il a réussi à faire, en l'espace de 5 ans, c'est pour ça que je suis contre l'élection du président au suffrage universel. Je suis pour la 6e République qui abolirait ça, cher à Montebourg, parce que ça donne des pouvoirs extraordinaires à cet homme. Hollande, il a toujours été social-libéral, disons. Social-libéral. En 84, il arrive au Parti Socialiste avec les transcourants, avec Delors, Le Drian, Bernard Poignant. Et c'est toujours la même politique. Mais en 11 ans de secrétariat du Parti Socialiste, il n'arrive pas à faire en sorte que le Parti Socialiste défende cette ligne sociale libérale. Or, au bout de 2 ans de présidence, il a réussi à faire cette politique, notamment avec Valls, hein, qui était dans la même lignée rocardienne. Et donc, je ne suis pas surprise de la façon dont ça s'est passé avec cette indécision perpétuelle, ces manquements, ces cadeaux au patronat, hein, que je ne lui pardonne pas, les cadeaux au patronat, on en avait déjà fait hein, en 80, au temps de Mitterrand, on avait aussi donné des choses aux patrons sans leur demander de contrepartie. Mais là, c'est encore pire.
On a dit que Sarkozy avait porté souvent atteinte à la fonction présidentielle. Est-ce que François Hollande a aussi porté atteinte à la fonction présidentielle ?
Oui, je pense que oui. Oui, dans la mesure où on ne l'écoute plus. Sarkozy comme Hollande, ils sont continuellement partout, ils veulent parler de tout et du coup ils sont inaudibles. Hein. Enfin, Sarkozy, il était audible parce qu'il était tellement odieux qu'on arrivait à l'entendre quand même. Mais pour Hollande, personne n'écoute ce qu'il dit. Donc il fallait que la parole soit beaucoup plus rare.
Mais alors, est-ce que Emmanuel Macron a plus de chances, notamment dans votre autobiographie politique, vous écrivez Emmanuel Macron qui propose comme projet de vie, il faut des jeunes qui aient envie de devenir milliardaires.
Oui, et je le compare à la phrase de Guizot disant « enrichissez-vous hein, ». C'est le libéralisme à tout va, quoi. C'est l'argent qui mène le monde. Ils ont raison, mais enfin, en même temps, quand on est socialiste, bon, Macron ne se prétend pas socialiste, mais quand on est socialiste, c'est quand même pas ça qu'il faut mettre en premier.
Notre Jean-Luc Mélenchon, vous avez bien connu Jean-Luc Mélenchon, il a même été adhérent des éditions Mutines.
Oui, tout à fait.
Un petit mot sur votre regard politique sur Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, mais moi je trouve qu'il... Il a eu le mérite de sortir du Parti Socialiste, il a eu le mérite de s'allier avec les communistes, donc de réussir une chose que, par exemple, Jean-Pierre Chevènement n'avait pas réussi à faire, c'est-à-dire créer quand même un petit groupe. Mais il est trop égocentrique, il est trop... Et puis il est d'une violence parfois, là. Je comprends pas comment il a pu dire des choses pareilles sur Hollande, même. Finalement, c'était son ennemi, Hollande. Enfin, c'est quand même pas possible, ça. C'est... Mélenchon, on l'a vu. Moi, je l'ai vu pendant 30 ans au Parti Socialiste. Bon, mais il était capable de s'allier à Rocard alors qu'il avait fait un livre contre lui. Et puis de se retrouver dans la majorité de Rocard. Donc, j'ai pas une confiance absolue. Mais je dois dire que c'est quand même le plus cultivé. Et puis c'est un excellent orateur, puis il n'a pas de mauvaises idées, hein, mais sa personnalité me fait un peu peur.
Quel que soit le prochain président de la République, pour le prochain quinquennat, la mission sera tout de même très difficile.
Ah, bien sûr.
Quels sont, selon vous, Marie-Thérèse Mutin, quels seront les grands enjeux auxquels devra faire face le futur président de la République ?
Bon, mais là, il y a le problème de l'Europe, hein, qui n'a jamais été résolu. L'Europe qu'on appelait l'Europe des travailleurs, l'Europe, bon, c'est pas fait. Ça, c'est un grand, grand défi à relever. Et puis, il y a quand même...
L'emploi ?
L'emploi avec tous les nouveaux métiers sur lesquels réfléchissent quand même certains socialistes. Et notamment, je dois souligner, en Côte d'Or, notre ami Laurent Grand-Guillaume, qui a écrit un livre tout à fait passionnant sur les nouveaux métiers et la façon dont il faut les aborder. Mais évidemment, Laurent Grand-Guillaume, lui, on ne l'entend jamais nulle part, parce que c'est un député qui n'a pas fait des esbroufes, qui ne va pas dire des petites phrases par-ci, par-là, et c'est dommage. Mais ça remet du baume au cœur en se disant il y a quand même des socialistes qui réfléchissent, quoi, parce que les autres, ils parlent sans réfléchir. Et donc ça fait plaisir, quoi.
Dernière question de notre entretien, Marie-Thérèse, pardon, le temps passe très vite et il est passionnant avec vous. François Mitterrand a dit « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas ». La laïcarde, la militante de gauche athée qui est ce soir devant le micro de l'émission littéraire de Radion, pourrait-elle dire aussi « Je crois aux forces de l'esprit » ?
Oui, ben oui, bien sûr, je crois aux forces de l'esprit.
Mais pas obligé de dire oui, Marie-Thérèse.
Mais si, mais je pense, oui. Mais qu'est-ce que ça voulait signifier, qu'il serait toujours avec nous ? Bien sûr, il est toujours avec nous. On en parle toujours, on fait toujours référence. Est-ce que c'est ça ? Mitterrand était un grand mystique, oui, contrairement à moi.
Ouais. Une lente agonie.
Oui, alors c'est l'agonie du Parti Socialiste, c'est pas la mienne. Hein.
Bien sûr. Une lente agonie, c'est donc le titre de l'autobiographie politique de Marie-Thérèse Mutin qui nous a tenu compagnie donc mercredi dernier et ce soir sur Radion. L'ouvrage est très facilement disponible en librairie, on peut le faire commander, mais vous pouvez aussi le commander en passant directement par le site des éditions Mutines. Enfin, c'est un blog des éditions Mutines. Marie-Thérèse, écoutez, merci beaucoup.
Mais c'est moi, toujours un plaisir d'être à Radion.
Et dimanche prochain, je vous laisse le soin de découvrir qui sera le candidat de la gauche socialiste aux élections présidentielles. Je vous donne rendez-vous, ce sera le 1er mars, mercredi 1er mars, c'est un entretien que j'ai enregistré, alors il y a de nombreuses années, qui n'a jamais été diffusé. C'est un entretien enregistré avec Alain Coste, psychanalyste, qui a énormément travaillé, abordé les textes littéraires par le biais ou le prisme de la psychanalyse. Et nous parlerons de la vie et de l'œuvre de Boris Vian. C'est donc mercredi 1er mars à 21h sur Radion. C'est Wagon Livre, chère Marie-Thérèse. Vous le savez, c'est la seule heure littéraire sur les ondes en Bourgogne.
On le sait bien, oui. Yannick, c'est pour ça qu'on vous reçoit avec un grand plaisir.
Et l'émission avec Marie-Thérèse sera d'ici quelques heures ou dès demain matin disponible à l'écoute et en podcast sur le site d'archives de Wagon Livre, www.yannickpetit.fr. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Merci Marie-Thérèse Mutin. Au revoir et à la semaine prochaine.
Au revoir, merci.